Vous êtes, chers auditeurs, conscients du fait qu'il existe à l'heure actuelle une grande quantité de sectes religieuses se proclamant toutes chrétiennes et prétendant pour la plupart être les seules détentrices de la vérité. Ces différents groupements religieux se sont formés au cours des siècles à cause du désir de certains hommes de propager leurs propres idées et leurs propres doctrines. Au premier siècle de notre ère, il n'existait pourtant qu'une seule Église. Elle n'était ni catholique ni protestante. C'était tout simplement celle que Jésus avait fondée. Les divisions en sectes, églises ou groupements, professant des théories souvent opposées les unes aux autres, n'avaient pas cours en ce temps-là. Paul déclare dans sa lettre aux Éphésiens que l'Église est le corps de Christ. Il affirme qu'il n'existe qu'un seul corps. Tous ceux qui obéissaient à l'Évangile de Christ étaient ajoutés par le Seigneur à son Église. Il n'aurait pas d'ailleurs pu faire partie d'autre chose, car c'était la seule qui existait. En effet, l'Église originale, celle pour laquelle Jésus avait versé son sang, était formée par tous les chrétiens, juifs ou gentils, pauvres ou riches, instruits ou analphabètes, et tous formaient un bloc véritablement monolithique en ce qui concernait la doctrine de Jésus de Nazareth. De nos jours, la situation est toute différente. On est tellement habitué à voir toutes ces sectes graviter autour de nous que nous en sommes arrivés à trouver cela presque normal, alors qu'en réalité, ces divisions sont condamnées par le Seigneur lui-même. Nous nous proposons de prouver que non seulement les divisions du christianisme ne peuvent se justifier, mais que de plus, elles vont à l'encontre de l'esprit de l'Écriture et que par conséquent, elles ne sont nullement un mal nécessaire comme certains le pensent. Quand nous nous opposons aux sectes, nous ne voulons évidemment viser personne en particulier, mais plutôt un système dans son ensemble. La Bible, dans son essence même, est fermement opposée aux principes, aux organisations et aux desseins du sectarisme. Un vrai prédicateur de l'Évangile a pour devoir de condamner ces pratiques. Et chacun devrait se souvenir que si un système est mauvais, on commet un véritable péché en l'encourageant ou en faisant partie. L'apôtre Jean déclare sans embâge, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » On est obligé de constater qu'une multitude de personnes, croyant et là souvent bien faire, soutiennent la cause du sectarisme en lui consacrant leur argent, leur temps et leur intérêt. Tous ces vains efforts pourraient pourtant être faits pour promouvoir l'unité chrétienne au lieu d'encourager le fractionnement du christianisme. Posons-nous maintenant une question absolument vitale. Le sectarisme est-il nécessaire à l'existence du christianisme? L'efficacité, les possibilités de la religion du Christ dépendent uniquement de l'existence de quelque chose que Jésus appelle la semence et qui est la parole de Dieu, contenue uniquement dans le Nouveau Testament. Cette semence est donc l'enseignement ou la doctrine du Christ, en un mot, l'Évangile, qui seul peut sanctifier l'être humain et l'amener au salut. C'est ce que l'apôtre Paul proclame avec une profonde fierté quand il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il ajoute même d'une manière qui ne laisse aucun doute sur cette puissance que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour avoir la véritable foi, qui n'est nullement une sorte de croyance, il faut donc que cette semence ait été semée dans notre cœur. Érigé même jusqu'à dire « semé dans notre intelligence ». En écrivant à son fils spirituel, Timothée, Paul lui dit « Toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre du péché, pour réfuter des erreurs et rectifier nos pensées. » Cette semence du royaume est donc la seule chose qui, après avoir germé en nous, peut nous guider vers l'obéissance qui mène elle-même au salut. Il en était ainsi au premier siècle, quand Jésus a fondé son Église et il en sera toujours ainsi. Trop souvent, on entend exprimer l'idée que le Nouveau Testament doit s'adapter à l'homme, qui lui a changé et vit maintenant dans un monde différent de ce qu'il était au premier siècle. Mais rien n'est plus faux. La Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation, et que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses propres pas. Dieu n'a pas changé, il n'a pas vieilli, il n'est pas mort non plus, et sa volonté en ce qui concerne l'homme reste toujours la même. Ce n'est pas à Dieu à s'adapter à l'homme qui soi-disant a changé, mais à l'être humain à continuer à observer fidèlement la volonté d'un Dieu qui, lui, n'a jamais changé. L'efficacité salvatrice du christianisme dépend par conséquent uniquement de la parole de Dieu. Cette semence qui la représente ne nous est pas dispensée par des hommes, mais directement par Dieu dans le Nouveau Testament. Pourquoi aller la chercher où elle ne peut se trouver, c'est-à-dire chez les hommes? Les enseignements de Jésus existaient des centaines d'années avant l'établissement de toutes ces sectes qui déchirent le christianisme. Ils continueront à briller dans le monde bien après toutes ces églises humaines qui finiront par s'écrouler et disparaître dans la nuit des temps. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il est évidemment très difficile de secouer le joug de l'habitude ou de la tradition qui pèse lourdement sur nous. Depuis bien des années peut-être, vous faites partie de telle ou telle église, mouvement ou groupe. Vous vous demandez parfois si vous êtes vraiment dans la vérité, car peut-être vous n'êtes pas pleinement satisfait des enseignements qu'on vous prodigue, de l'exemple de certaines personnes, ou même de ce que vous pratiquez depuis déjà sans doute fort longtemps. Dans votre fort intérieur, vous êtes peut-être troublé, voire inquiet quant à votre salut. J'aimerais, avant de vous quitter, vous poser une question qui peut peut-être vous paraître brutale. Êtes-vous pleinement persuadé d'être sauvé, d'obtenir la vie éternelle? Réfléchissez bien. Êtes-vous certain d'être sauvé? Si la réponse que vous venez de vous donner n'a pas été un oui immédiat, qui est parti du cœur sans que vous ayez besoin même de réfléchir, alors le moment est venu pour vous de faire quelque chose, de bouger, d'agir dans votre vie spirituelle. Pourquoi alors ne pas écouter Jésus vous dire « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » De par le vaste monde, des millions de personnes étaient indécises quant à la direction à donner à leur vie spirituelle. Elles se disaient également « Il existe tant de sectes, tant de différentes doctrines et théories, en qui puis-je avoir confiance ?» Ces personnes ont fini par trouver LA réponse à cette angoissante question qui pèse si lourd dans la balance de notre vie. Elles ont pris une décision capitale. Se tourner uniquement vers Dieu. Lui demander de répondre à tout cela. Avez-vous jamais, au cours d'une longue promenade, découvert une source d'eau fraîche dans un creux? Vous en êtes-vous approché pour boire alors que vous aviez si soif? Qui ne le ferait pas? Oui, étanchez votre soif à l'eau pure du Nouveau Testament, comme nous. Étudiez-le, méditez-le avec nous. Vous ne serez pas déçus, comme par tout ce qui vient de l'homme. Notre seul but est de partager gratuitement avec vous ce que nous avons un jour reçu, la connaissance de la volonté de Dieu.